International Rescue Committee présente la mini-série sur les normes minimales pour la programmation d'action de lutte contre la VGB qui met l'accent sur les vies de Claudine, Esther et Asma. Trois employés travaillant dans une organisation nationale de défense des droits des femmes. Cette série spéciale est diffusée sur le podcast « Protection et autonomisation des femmes » où nous donnons la parole aux femmes et aux filles dans les contextes humanitaires. Ce projet est rendu possible grâce au Bureau de l'aide humanitaire de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. Bienvenue au 14e épisode de la mini-série sur les normes minimales inter-organisation pour la programmation d'action de lutte contre la VGB.
Claudine, je suis ravie que nous ayons un peu de temps ensemble aujourd'hui, pendant que les membres du personnel sont en formation sur la ligne d'assistance téléphonique. Maintenant que tu prends en charge de plus en plus de cas, je veux te parler davantage du système que je t'ai présenté plus tôt. Le système de gestion des informations sur la violence basée sur le genre, ou GBVIMS. Camille t'a donné une longue introduction à ce système, n'est-ce pas? Elle t'a aidé à saisir les informations relatives à tes cas?
Oui, mais j'aimerais en savoir plus.
Eh bien, j'aime commencer par la raison pour laquelle nous utilisons ce système. Nous avons commencé à l'utiliser parce que nous avions besoin d'un moyen sûr de gérer les informations sur les survivantes. Nous ne pouvons pas simplement avoir des dossiers papier sur nos bureaux. Pourtant, nous devons avoir une certaine documentation.
Je comprends. J'ai toujours besoin d'écrire les choses, sinon je les oublie.
Moi aussi. Et c'est toujours bien de noter les informations. Si tu devais prendre congé, quelqu'un d'autre pourrait travailler avec les femmes avec lesquelles tu as travaillé.
Je pense aussi que parfois, il est agréable de pouvoir regarder en arrière et de voir les programmes réalisés par quelqu'un.
Je suis d'accord là aussi. Donc, nous utilisons le GBVIMS parce que c'est un outil utilisé aux quatre coins du monde. Cela signifie qu'il est utilisé par un grand nombre d'organisations différentes dans le monde entier. Nous savons donc que des améliorations sont constamment apportées.
C'est logique.
Est-ce qu'Asma t'a montré où nous mettons les formulaires de consentement? Étant donné que ce sont les seuls formulaires papier que nous avons encore?
Elle a dit qu'elle les mettrait dans la salle d'archives pour moi.
Bien. Cette pièce fermée à clé là-bas est l'endroit où nous gardons toutes les informations sensibles et personnelles, comme les formulaires de consentement. J'ai la clé et Camille, l'agente de SCE, là aussi, comme renfort. Sinon, pour garder les informations en sécurité, le personnel n'est pas autorisé à y entrer.
C'est également logique.
Je sais que Camille t'a aidé avec le système, mais en fait, la semaine prochaine à la même heure, elle va donner à tout le monde une formation de remise à niveau sur le système. Tu devrais t'assurer d'y assister afin d'être correctement formé.
Et si l'organisation n'utilise pas le GBVIMS?
Il existe toujours des exigences minimales en matière de gestion des données relatives aux survivantes de VBG que tout prestataire de services dans ce domaine doit mettre en place. Il faut s'assurer que des services sont disponibles pour les survivantes de VBG si des données doivent être recueillies auprès d'elles avec leur consentement éclairé, que les données soient collectées de manière à limiter les identifications et si elles sont partagées à des fins d'analyse ou de rapport, elles doivent être non identifiables et suivre le protocole de partage d'informations convenu avant le partage des données. Tout cela est similaire à ce que nous faisons avec le GBVIMS. Les données des clientes doivent être protégées à tout moment.
J'ai compris. Mais puis-je poser une question sur les informations relatives aux survivantes?
Bien sûr.
L'autre jour, une personne travaillant dans la coordination m'a posé une question et je ne savais pas trop comment y répondre.
Que s'est-il passé?
La personne m'a dit qu'elle avait entendu parler d'une survivante dans notre région qui nous avait signalé un incident et que la femme en question était enceinte. Je pense qu'il s'agissait de la femme avec laquelle je travaille. La personne responsable de coordination m'a dit qu'elle voulait juste s'assurer qu'elle était en sécurité et qu'on l'aidait. Je ne lui ai rien dit car je suis consciente de l'importance de la confidentialité. Mais j'étais confuse car elle travaille dans le même secteur que nous. Elle fait de la coordination, donc je doute qu'elle fasse quelque chose de mal avec l'information. Mais je n'étais pas sûre, donc je n'ai rien dit.
Je suis contente que tu aies fait confiance à ton instinct. Tu as fait ce qu'il fallait. La confidentialité signifie ne pas partager le nom d'une cliente ou les détails d'une affaire avec quiconque, sauf si la personne a vraiment besoin de le savoir. Même avec moi, tu peux me parler d'un cas sans me dire le nom ou des détails spécifiques. Je peux toujours t'aider à comprendre les défis, mais même moi, je n'ai pas besoin de savoir de qui il s'agit. Alors que si tu fournis un référencement, tu dois souvent partager une sorte de nom ou de code d'identification parce que celle qui reçoit le référencement a besoin de savoir qui vient.
Cela aide à rendre les choses plus claires. Mais que dois-je leur dire à part non?
Tu peux toujours les référer à moi ou tu peux leur dire que nous partagions les informations conformément au protocole de partage des informations.
Qu'est-ce que c'est?
C'est un document qui présente le qui, quoi, où, quand, pourquoi et comment du partage des données. Il met sur papier la façon dont nous partageons les données agrégées.
Agrégées?
Pensez comme ceci. Si je dis qu'il y a eu 10 cas d'agression ce mois-ci, c'est un chiffre groupé. Nous partageons ce genre de statistiques tous les mois pour aider à coordonner la réponse globale à la violence à l'égard des femmes et des filles dans cette région.
Qu'en est-il des informations personnelles comme des noms ou des informations de contact?
Cela ne serait partagé que dans le cadre d'un référencement et uniquement avec le consentement éclairé de la survivante.
D'accord, mais que faites-vous des données que nous collectons? Parfois, on a l'impression qu'il y en a beaucoup.
Oui, c'est le cas. Mais nous prenons beaucoup de décisions grâce à ces informations, comme le nombre d'employés dont nous avons besoin, ce qui est en fait l'une des raisons pour lesquelles nous t'avons engagé. Nous avons constaté une augmentation soutenue des cas et nous avons décidé d'embaucher quelqu'un pour nous assurer que les travailleuses sociales voient un nombre correct de survivantes et non pas un trop grand nombre. Nous utilisons également ces informations pour prendre de nombreuses autres décisions.
Comme quoi?
En fait, nous avons une session d'apprentissage après-demain. Tu voudrais y participer?
Oui, ce serait génial de voir ce qui se passe avec toutes ces informations.
Je te transmettrai l'invitation alors.
Merci Esther.
La norme est que les données sur les survivantes sont gérées avec leur plein consentement éclairé dans le but d'améliorer la prestation de service et qu'elles sont collectées, stockées, analysées et partagées de manière sûre et éthique. C'est ainsi que nous clôturons le 14e épisode de la mini-série sur les normes minimales interorganisation pour la programmation d'action de lutte contre la VGB. Si vous utilisez le guide d'animation pour poursuivre votre apprentissage, nous espérons que ce n'est que le début de votre discussion.